session de théologie L'Église comme sacrement de salut par le Père Philippe à Rimont, le 29 octobre 1995, deuxième conférence.
Le Saint-Père lui-même, au terme du synode des évêques en Afrique, rappelait qu'il demandait aux théologiens de creuser le point de vue Église-Famille. Donc on est bien dans la ligne. Oui. Et je crois que si on le creuse, il faut le creuser à partir de la Genèse, jusque dans l'Ancien Testament, qui se termine dans le Cantique des Cantiques, le point de vue de l'intériorité de l'amour, et la reprise, Saint Paul, Saint Jean. On regarde les relations qui étaient ici. Si on regarde les relations de Jésus tête, Jésus pierre angulaire, Jésus époux et l'Église, si on regarde le chapitre 15 dans Saint Jean, tout cela ne fait aucune allusion au sacrement. Tout cela s'explique, ou plus exactement, s'explicite. Quand je dis s'explique, c'est explicité, n'est-ce pas ? S'explicite par le mystère de Jésus, source de toute grâce, source instrumentale de toute grâce, et de la grâce sanctifiante. C'est la plénitude de la grâce sanctifiante. Pierre angulaire, c'est la plénitude de la grâce sanctifiante. Époux, c'est la plénitude de la grâce sanctifiante dans la charité. Et la fécondité, c'est la perfection et donc la plénitude de la grâce. Donc, je vous l'avais dit rapidement, mais c'est très important de comprendre que c'est ce mystère de la participation à la plénitude de grâce du Christ, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Saint Jean, le prologue. C'est vraiment cela qui nous fait adhérer dans la foi au mystère de l'Église. Et cette participation, si on veut la comprendre, on la voit dans ses différentes significations, ses diverses causalités. Cela me semble la première réflexion. Et si je réfléchis sur cette grâce capitale du Christ, je vois que cette grâce capitale du Christ lui permet à la croix, puisque c'est à la croix où cette grâce capitale s'exerce, d'être médiateur de salut, c'est-à-dire grand prêtre. Et donc, toute la structure profonde de l'Église repose sur cette grâce capitale du Christ, médiateur, comme grand prêtre, source de salut. Parce qu'il faut bien situer, hein. Je ne peux pas comprendre le mystère de l'Église si je ne vois pas la médiation sacerdotale du Christ. C'est la médiation sacerdotale du Christ comme fils bien-aimé du Père et comme l'agneau qui porte l'iniquité du monde. C'est toujours les deux. Fils bien-aimé du Père et l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Qui peut me faire saisir le mystère le plus secret de l'Église. Jésus vient pour les pécheurs, pour porter l'iniquité du monde. Et l'iniquité du monde, c'est notre iniquité. C'est pas celle du voisin, c'est notre iniquité que Jésus porte. Pour nous purifier. sacrifier et nous offrir au Père comme une victime d'amour avec lui. C'est la médiation du Fils bien-aimé. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. L'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux, à ce point de vue-là, c'est l'Épître qui nous fait saisir le métaxu de tout le mystère de l'Église. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus réalise un royaume de prêtres pour le Père. Sa grâce est sacerdotale. Notre grâce chrétienne est sacerdotale. Puisque Jésus veut que chacun d'entre nous, nous soyons face au Père, responsables de nos frères, dans la charité fraternelle. Et c'est vrai que c'est commencé tout de suite comme ça, dès qu'il y a eu le péché. Dieu demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Premier jugement. Et ce sera toujours ça, qu'as-tu fait de ton frère ? Parce que nous sommes tous prêtres, en ce sens que nous sommes responsables de nos frères, dans la charité fraternelle. Vous voyez, la fécondité chrétienne implique le sacerdoce. Mais quand je dis sacerdoce, c'est le sacerdoce du Christ. Et alors c'est ici où tout de suite nous voyons que qui, au dire de saint Thomas, et fonce, j'aime bien l'expression, dotios, sa chair dotis. Le Christ est source de tout sacerdoce. Il est le grand prêtre par excellence. Bien, la participation de ce sacerdoce en ligne directe, c'est le sacerdoce royal des fidèles. Sacerdoce royal des fidèles qui se fonde sur la participation à la grâce, à la plénitude de grâce, à la grâce du Christ. Nous sommes prêtres, c'est le royaume sacerdotal. Mais l'expression du royaume, je ne vais pas parler du royaume. Je vais parler de l'Église. Le royaume inclut l'Église de la terre et l'Église du ciel. Le royaume de Dieu est commencé dans l'Église militante. Et l'Église, dans son terme, elle est royaume de prêtres. Mais déjà de la terre. Et puis, il y a une seconde participation du sacerdoce du Christ dans le prolongement de celle-là, les sacrements. C'est ça qu'il faut bien saisir, et c'est important puisque l'Église sacrement de salut. Donc regardons cette seconde, ce second lien avec Jésus, qui est le lien par les sacrements. Les sept sacrements. Il y en a sept. Vous savez que c'est deux fois. Depuis le Concile de Trente, l'Église a précisé les sept sacrements. Ce serait du reste très important de bien regarder l'organisation interne des sept sacrements qui se comprend en fonction de la croissance. Les sacrements, c'est en vue de la croissance de l'Église militante. C'est pour l'Église de la terre. L'Église du ciel est au-dessus des sacrements. C'est pour ça que les sacrements ne définissent pas l'Église, mais les sacrements donnent la structure de l'Église de la terre, de l'Église militante. Et je crois qu'il est très important pour nous de toujours comprendre ces deux participations. Nous participons à la grâce du Christ par les sacrements. Nous participons à la grâce du Christ par la grâce sanctifiante. Et nous comprenons alors que le sacrement est signe de grâce et instrument de grâce. Le propre du sacrement, c'est d'appliquer les deux. Signe et instrument. Signe manifeste que nous sommes reliés à Jésus. Le baptême montre que la vie chrétienne implique une naissance. Tout est repris dans la grâce du Christ. Mais le baptême a comme grâce propre, il ne faut pas l'oublier, le caractère qui nous lie comme membres du Christ et qui explicite cette capacité qu'a tout baptisé de vivre du Christ et des mystères de Jésus. Sacrement de l'illumination, comme disent les orthodoxes, puisque c'est le sacrement de la foi. Et du premier moment de la foi, on est des êtres de lumière dans le Christ. C'est la première chose. Oui, alors, le sacrement apporte une surabondance. C'est, je crois, ce qu'il faut toujours se rappeler. D'une certaine manière, les sacrements ne sont pas utiles. Ce qui est indispensable, c'est la grâce. Mais comme nous sommes dans la lutte et que la croissance de la grâce se fait dans la lutte, Jésus, qui apporte la plénitude de grâce, nous donne cette plénitude à travers les sacrements. Les sacrements, c'est nous unir à la plénitude de grâce du Christ. Oui, si on était tout à fait rigoureux, on devrait dire la participation à la grâce du Christ, c'est la grâce sanctifiante qui est en nous, qui nous est donnée gratuitement. Et cette grâce sanctifiante s'épanouit dans la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, l'espérance et la charité nous sont données gratuitement. Mais nous sommes responsables en face de Dieu de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Et les sacrements sont donnés pour que nous puissions vivre de cette responsabilité de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Et ça, c'est très important de comprendre que les sacrements vont nous donner une sorte d'autonomie à notre vie chrétienne. À la fois une dépendance et une autonomie. C'est pour ça qu'il y a le caractère. Le caractère est un pouvoir qui est reçu dans l'intelligence pratique et qui nous permet d'opérer, d'agir en chrétien, dans le Christ, par lui et avec lui. C'est le propre du caractère. Mais qui les sacrements sont donnés justement par surabondance. Les sacrements vont nous donner ce caractère particulier que le Christ nous aime pour nous-mêmes et donc nous donne une certaine autonomie. C'est tout le mystère de la grâce qui fait de nous des personnes liées à la personne du Christ. Et toujours le problème de la personne implique l'autonomie, puisque nous sommes responsables de la croissance de la grâce, responsables de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Dès le baptême, tout baptisé est chrétien, et il est responsable de sa vie chrétienne. Alors c'est pour ça qu'à côté du baptême, il y aura la confirmation qui insistera sur cette autonomie et cette responsabilité. Et tous les sacrements vont toujours ajouter quelque chose à notre personne chrétienne. Notre autonomie, notre recherche de la vérité, notre capacité d'aimer et la manière dont on peut coopérer à l'Esprit Saint pour être victorieux des luttes. Donc il faut comprendre ça, je crois, la place des sacrements, c'est très très important. C'est un mystère de surabondance. Alors l'Église est bien obligée de dire qu'on est obligé d'assister à la messe le dimanche, qu'on est obligé de se confesser quand même dans le temps, on disait une fois par an, et ça reste. On est obligé, et ainsi de suite, vous voyez. Au fond, c'est terrible de réintroduire la loi dans la gratuité. Parce que les sacrements, c'est la gratuité. Mais parce que nous sommes de pauvres croyants, qui risquent toujours de revenir avec leurs droits. On dit attention. Et c'est pour ça qu'au fond, les sacrements apparaissent tellement comme la pratique des sacrements. C'est la pratique, on insiste là-dessus. Mais ça fait dévier ce que c'est que le sacrement. Le sacrement demande de comprendre la gratuité. Parce que c'est l'union à la plénitude de grâce du Christ. Et c'est nous faire comprendre notre autonomie. Cette autonomie, elle est très bâtarde. Et c'est pour ça que l'Église est obligée d'insister. Parmi les sacrements, il y a le sacrement d'ordre. Le baptême, l'Eucharistie, l'ordre. Voyez, le baptême lié à la confirmation, ces deux se tiennent, permettent aux chrétiens d'être responsables de ses actes dans le Christ. Et comme il lutte, il a besoin d'une nourriture. Alors c'est là où il serait très intéressant de noter les nourritures. Vous savez que pour un vivant, la question du régime est très importante. Il y a des vivants qui se définissent en fonction de leur régime. C'est sûr, parce qu'ils ont besoin de manger certains aliments. Un grand vivant, c'est comme un bourreau. On lui sert n'importe quoi, il mange. Qu'une importance. Et ça digère. Tandis que celui qui n'est pas boa ne digère pas tout. C'est intéressant, parce que dans l'Église, il y a des boas. C'est vrai, c'est pas vrai, ça n'a pas d'importance. J'interprète ça, ça n'a pas d'importance. Vous voyez, c'est très curieux. Le boa, c'est quantitatif. Puis il y a des saints qui ont un sens très particulier de ce qui est voulu par le Père et de ce qui n'est pas voulu par le Père. Ça, c'est sûr. Alors, il y a les trois nourritures. comprendre le mystère de l'Église, puisque c'est un vivant qui demande de croître. Il faut saisir ces trois nourritures. Or, les trois nourritures sont en fonction de la croissance de la foi, de l'espérance et de la charité. Et on peut faire tout un traité de l'Église par les trois nourritures. Et on peut, par les trois nourritures, comprendre le degré d'intensité, de vérité de l'Église. Les trois nourritures, c'est la parole. La parole de Dieu. C'est l'Eucharistie. C'est l'accomplissement de la volonté du Père, donc l'obéissance à la volonté du Père. Ce sont les trois nourritures qui sont révélées. Il n'y en a pas quatre, cherchez bien. J'ai cherché. S'il y en a une quatrième, vous me le direz. J'ai une tête oubliée. Trois nourritures affirmées par Jésus. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a une nourriture, la parole. Et puis, il y a des attentes de la vraie nourriture, la manne. Et il y a la volonté du Père. Ou alors celle-là, oui, l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé. Et Moïse en sait quelque chose. Quand il a douté, puni directement sur la terre. C'est bien. Alors, les trois nourritures expriment la vitalité propre. On a soif de la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Alors, foi, charité, espérance. Pourquoi y a-t-il actuellement dans l'Église, j'ai beaucoup de chrétiens, un tel désespoir, c'est parce qu'ils ne nourrissent plus leur espérance. Ils n'obéissent plus. C'est par l'obéissance que je suis fort, puisque je ne suis plus seul. Je suis avec le Père. Le Père et moi, nous travaillons toujours. Par l'obéissance, on peut dire le Père et moi, nous travaillons toujours. Tout ce que vous faites par obéissance, le Père le fait avec vous. Alors ça donne une espérance énorme. C'est très important, vous voyez, de comprendre la place, vous voyez bien, la place des sacrements, l'Eucharistie, comme nourriture. Et c'est le sacrement par excellence. Et donc je ne comprends les sacrements qu'en regardant l'Eucharistie. Et l'Eucharistie m'unit au corps du Christ, sacramentellement. Les sacrements sont en vue de la croissance de la charité, donc de la foi et de l'espérance. Puisque la charité présuppose l'espérance et la foi. Les sacrements sont en vue de la croissance de la charité, tous. Et donc sont ordonnés à la croissance de la plénitude de la grâce du Christ en moi. Il y a un ordre entre les deux. C'est pour ça que je vous rappelle la place des sacrements. Par le fait même, nous avons ce problème que le Concile a demandé aux théologiens de vouloir bien préciser. L'Eucharistie, Dieu veut qu'il soit donné par le sacerdoce. L'Eucharistie aurait pu très bien être donnée en dehors du sacerdoce. La communauté des chrétiens aurait prié et le Christ aurait lui-même agi, transformant les oblats dans son corps et dans son sang. Et une perspective des protestants. Or, si je suis catholique, il y a un sacrement, qui est le sacrement ordonné au sacerdoce, ordonné à l'Eucharistie. Le Saint-Père, dans sa lettre au prêtre jeudi saint, a précisé que le sacerdoce sacramentel, ministériel, est défini par l'Eucharistie. Le prêtre, c'est l'homme de l'Eucharistie. Il dit la raison propre du sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Vous voyez, ce n'est pas... C'est bien la parole de Dieu, mais ce n'est pas ce qu'il y a de propre. La parole de Dieu peut être transmise par le diacre, par tout témoin du Christ, tout fidèle. Un fidèle peut transmettre. On demandera que l'homélie soit par le prêtre dans l'Eucharistie, mais un fidèle peut faire des conférences de théologie. Non, chez les orthodoxes, les théologiens sont des laïcs, souvent, très souvent. Les théologiens. Donc le mystère de la parole de Dieu. Quant au mystère de la volonté du Père, alors, il est ce qui finalise tout. La parole et l'Eucharistie, c'est pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père nous remet directement en présence de notre vie théologale. Et donc, le lien avec le Christ. C'est un dépassement des sacrements. Donc, voyez, le dépassement des sacrements se fait à l'intérieur même de la nourriture. Il y a deux dépassements des sacrements. Tout est ordonné à accomplir la volonté du Père, l'obéissance. Et le dépassement radical des sacrements, c'est justement de participer d'une manière plus profonde à la grâce du Christ, dans la foi, l'espérance et la charité. Alors, je me pose tout de suite le problème. Vous comprenez bien. Dans quelle mesure puis-je dire que l'Église est sacrement du salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrement, c'est un signe et un instrument. Donc le sacrement, la sacramentalité. On m'avait demandé une fois, c'était le bon père Marie-Alain, quand il était prieur ici, « Mon père, est-ce que vous ne pourriez pas faire pendant toute l'année un cours sur la sacramentalité ?» J'y avais jamais pensé. Parce que moi, je regarde les sacrements. La sacramentalité, vous voyez, c'est comme la blancheur par rapport à blanc. Il y a sacramentalité des sacrements. Ce par quoi les sacrements sont sacrements. C'est ça, la sacramentalité. Qu'est-ce qui fait qu'un sacrement est sacrement? C'est tout à fait la question. Qu'est-ce qui fait que l'Église est sacrement? Ah, qu'est-ce qui fait que l'Église est sacrement? La sacramentalité, c'est un ordre particulier, divin. C'est Dieu qui a inventé les sacrements. C'est pas l'Église, c'est le Christ. Il a inventé les sacrements en instituant l'Eucharistie. Le sacrement des sacrements. Or, la sacramentalité, c'est la manière particulière dont le Christ est présent après la consécration du pain et du vin. Il est présent, caché, derrière les espèces, les apparences du pain et du vin. Il est réellement présent. Mais réellement, selon un mode sacramentel. La présence de Jésus dans l'Eucharistie, ce n'est pas la même présence. Comprenez bien, c'est pas la même présence au point de vue mode, modalité, que la présence du Christ en ciel, mais c'est le même Christ substantiellement. C'est le Christ qui est présent. Il n'y a pas 36 Christ, mais le Christ a diverses manières d'être présent. Il était présent dans le mystère de l'incarnation, il était présent dans le mystère de la croix. Il est présent dans le mystère de l'Eucharistie. Il est présent dans le ciel. Les sacrements, ce n'est pas la réalité parfaite et dernière. C'est pour ça que les grands théologiens du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, distinguent toujours sacramentum et res quand il s'agit de l'Eucharistie. Il dit que le sacrement, c'est justement le signe et l'instrument. La res, c'est la grâce, c'est le corps mystique. C'est la croissance du corps mystique, c'est l'unité du corps mystique. Vous voyez ? Donc le sacrement est ordonné à la grâce sanctifiante. Il n'est pas la grâce sanctifiante, il est le moyen de la grâce sanctifiante. Vous voyez ? J'insiste lourdement pour que vous compreniez comment, quand on dit que l'Église est comme un sacrement, il faut toujours ajouter comme un sacrement. Parce que l'Église n'est pas un sacrement. Ça a une parenté avec le sacrement. C'est que l'Église, en effet, est un signe de la présence du Christ. Et un instrument de fécondité, de la grâce. Donc, elle est signe. Elle est instrument, mais elle est plus qu'un signe, un sacrement. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure que le Christ aime l'Église pour elle-même. Tandis que je ne peux pas aimer un sacrement pour lui-même, puisqu'il est signe, instrument. Je l'aime en fonction de celui qui l'a institué et en fonction de la grâce qu'il nous communique. On ne s'arrête pas au sacrement. Quand vous adorez le Christ présent dans l'Eucharistie, vous adorez, c'est vrai, le Christ présent dans l'Eucharistie pour vivre au plus intime de votre cœur et pour vous unir au Christ dans la gloire. Toujours. Alors, comprenez, l'Église est plus qu'un sacrement. Parce que l'Église, elle est l'épouse. Parce que l'Église, elle est le corps. Parce que l'Église, elle est le temple. Parce que l'Église, c'est la fécondité de la vigne. Elle est plus. Mais elle est sacrement. Et c'est ça qu'il faut bien saisir. C'est pour ça que j'ai commencé exprès par vous montrer le mystère de l'unité de l'Église tel que nous pouvions le saisir à travers la révélation. Et puis, je vois les deux manières de participer du sacerdoce du Christ. Sacerdoce royal des fidèles, qui n'est pas un sacrement. Et c'est pourtant le mystère de l'Église. Et le sacerdoce ministériel, qui est sacrement, sacrement d'ordre. Ces deux manières d'être unis au sacerdoce du Christ sont les deux modalités de participation. Mais puisqu'il y en a deux, il y a un ordre, forcément. Le sacrement est ordonné au mystère de la grâce sanctifiante, est ordonné à la participation de la grâce sanctifiante. Il est pour cela. Le sacrement est pour nous faire grandir. Le sacrement est pour nous fortifier. Le sacrement est pour nous purifier. Sacrement de pénitence. Si nous avons besoin de l'infirmerie, parce que nous sommes malades, parce que nous sommes mourants, nous avons besoin de ce sacrement de pénitence. Mais voyez, les sacrements, c'est signes et instruments. La sacramentalité n'implique pas la réalité. jamais à son épouse. Tu es pour moi un pur sacrement. Pur signe, pur instrument. C'est oublier la personne. Et c'est de regarder que la fonction. Et pour ça que l'Église est plus. Elle est sacrement, mais elle est plus que sacrement. Donc je ne peux pas définir l'Église par le sacrement. Et ça, c'est sûr. Les sacrements sont pour l'Église. Pour que l'Église soit plénière et parfaitement Église. Parfaitement épouse du Christ. Parfaitement corps mystique du Christ. Parfaitement temple du Saint-Esprit. Parfaitement source de fécondité. Les sacrements sont pour l'Église. Je ne dis pas que l'Église est pour les sacrements. On ne va pas dire que le chrétien, c'est pour le curé. Pour que la paroisse soit bien vivante. Pour que l'Église soit pleine. Et que la pratique des sacrements soit parfaite. Non, non, pas du tout. Les sacrements sont pour notre vie avec le Christ. Et donc, les sacrements sont pour que nous soyons fidèles au sens très très grand, fidèles à être des êtres de lumière sous l'emprise de la grâce chrétienne, que nous soyons fidèles à être des témoins d'amour du Christ. Que nous soyons fidèles et victorieux à l'égard de toutes les luttes. Alors là, on comprend comment je puis très bien dire, et c'est très beau de le dire, l'Église est comme un sacrement. Parce que elle est vraiment signe. Et voyez toutes les analogies que vous pouvez faire. Les apparences demeurent. Le petit gosse qui vient d'être baptisé, il continue de crier. Quelquefois, il cesse de crier, tout le monde est en admiration. Voyez la grâce. Oui, oui, oui. Les hommes continuent avec leur tempérament de sauvage. Ce ne sont pas des témoins reluisants du Christ. Hein. De temps en temps, il y a le sauvage qui reprend ce qu'il a donné par derrière. Quand il croit que le Christ a tourné le dos, mais comme il ne tourne jamais le dos, et qu'il voit toujours, il a des yeux partout. Il reprend. C'est vrai, on donne un triste témoignage, il faut bien le reconnaître. Que le Christ apparaisse à travers nous, c'est pas glorieux. À travers ses saints, c'est très touchant. Mais c'est pas non plus très glorieux. Même les saints, il y a toujours un abîme entre les deux. Donc l'Église est bien signe, c'est vrai. Quand on s'aime de charité fraternelle. Quand, dans une communauté religieuse, la charité est victorieuse des tempéraments si différents, qui fait que dans le monde, on ne saurait jamais rencontrer. Et on est obligé de vivre les uns à côté des autres. Dans le mariage, dans les épousailles, avant le mariage, les épousailles, tout est glorieux, mais apparemment. Et quand on vit ensemble, alors c'est plus difficile. Mais le mariage donne une victoire aussi à l'égard des tempéraments différents. Et des conséquences du péché originel qui sont présentes dans le mariage, qui sont utiliser signes et les instruments. Mais elle est plus que ça. Elle est épouse. Elle est corps mystique. Elle est temple. Oui, il faut bien comprendre que les sacrements ne sont pas adéquats à la participation à la plénitude de grâce du Christ. Les sacrements présupposent cette participation. Les sacrements communiquent cette participation, le baptême, la pénitence, mais présuppose aussi cette participation, l'Eucharistie, le mariage, le sacerdoce, pour donner une plénitude à cette participation. Alors, ils sont à la fois instruments et instruments conjoints au Christ. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'au bout par l'Eucharistie. L'Eucharistie